La photographie n'est pas la vérité. Le photographe interprète la réalité, il construit sa propre réalité en fonction de ses connaissances et de ses émotions. C'est parfois compliqué car c'est un phénomène légèrement schizophrène. Sans l'appareil, vous voyez le monde d'une façon et avec d'une autre. À travers cette petite fenêtre, vous composez, vous rêvez la réalité, comme si l'appareil vous permettait de synthétiser ce que vous êtes et ce que vous avez appris du lieu. Ensuite, vous fabriquez votre propre image, vous interprétez. Il arrive la même chose au photographe qu'à l'écrivain. Il lui est impossible de saisir la vérité de la vie. Graciela Iturbide est ce soir notre invitée à l'occasion de l'exposition Héliotropo 37 qui vient de commencer à Paris à la Fondation Cartier. Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec Chavela Vargas.
Que tienen las flores llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre a llorona y el primero que te di. El último de mi madre a llorona y el primero que te di. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río.
Vous pleurez souvent, Graciela?
Oui. Non, en ce moment... Pardon. En este momento, non. Pero cuando yo era niña, lloraba
en ce moment,
mucho.
Non, mais quand j'étais petite, oui, je pleurais beaucoup.
No puedo llorar.
Mais maintenant, je ne peux plus pleurer.
He perdido amigos que quiero mucho, como
J'ai
Francisco Toledo.
Perdu des amis que j'aimais beaucoup, oui, comme Francisco Toledo, le peintre mexicain qui était très proche de moi.
No puedo llorar.
Et maintenant, je ne peux plus pleurer. Je ne sais pas
quiero
vraiment ce qui s'est passé. Je voudrais pleurer, mais je ne peux pas.
C'est votre cœur qui s'est endurci, Graciela?
Bien sûr que si.
Je crois que oui.
Porque yo perdí una hija,
parce que
lloré
j'ai perdu
mucho,
une fille.
He tenido épocas en mi vida fuertes,
pleuré beaucoup, j'ai
duras,
connu des moments difficiles dans ma vie, d'autres moments merveilleux. Et avant, je pouvais
no
pleurer, mais maintenant, je crois que ça fait 5 ans que je n'ai
yo
pas pleuré. Je pouvais pleurer comme
no
sur une musique de Chavela Vargas, comme celle qu'on a entendue. Je pouvais pleurer au cinéma.
No sé
maintenant, je ne peux plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cœur.
Vous avez perdu une fille à l'âge de 10 ans, et il y a des photographies à l'intérieur de cette exposition qui vient de commencer à la Fondation Cartier à Paris, bouleversante, d'une série de photographies que vous avez faites dans des linceuls couverts de blanc, car telle est la tradition mexicaine. Quand un petit enfant meurt, on le met dans un cercueil, mais on l'habille de blanc et on le fait ressembler à un ange. Quand avez-vous commencé cette série sur la mort, Graciela Iturbide?
Yo comencé la serie de tomar
Alors, j'ai
pequeños angelitos,
commencé cette série sur les petits anges, comme on les appelle en Amérique latine, avec la mort de ma fille, parce que j'avais le sentiment que c'était une thérapie pour moi. Jusqu'à ce que j'aille dans un village qui s'appelait Dolores Hidalgo. Hein. C'est étrange. Et maintenant, je me rends compte, en fait, hein. Dolores, c'est douleur au pluriel. Et donc, ce village s'appelait Dolores Hidalgo.
Et
j'ai demandé à quelqu'un qui était avec un petit enfant mort de prendre des photographies. Et il m'a dit oui, bien sûr. Et donc, je les ai suivis au cimetière. Et à un moment donné, il s'est retourné, il m'a regardé, très surpris. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai vu, en fait, au milieu du chemin, dans ce cimetière, la mort. Et c'était un homme qui était encore habillé, mais qui avait le visage complètement mangé. J'ai pris 3-4 photographies en pensant que c'était un rêve. Et j'ai continué à accompagner ce monsieur pour l'enterrement de son enfant. Et puis ensuite, se sont envolés énormément d'oiseaux, hein, que j'appelais les oiseaux de la mort, puisque c'est eux qui avaient mangé, en fait, le visage de cet homme, de ce cadavre. Et donc, là, j'ai eu le sentiment que la mort me disait « Ça suffit, Graciela, arrête, tu n'as plus besoin de souffrir comme ça, tu n'as plus besoin de suivre cette espèce de thérapie, arrête de faire ces photographies d'Angelitos. » Et c'est ce que j'ai fait. Hein. Et je crois que la vie a beaucoup à voir, la photographie, pardon, a beaucoup à voir avec la vie. Et mon appareil m'a appris à voir la mort et à dire « ça suffit ». Et c'est là que j'ai arrêté de prendre ces petits enfants morts en photo.
Ça suffit, la mort, et pourtant, dans votre pays, le Mexique, Graciela Iturbide, il y a des rites autour de la mort, il y a des exorcismes autour de la mort. Et vous avez réussi, en tant que photographe, à vous faire oublier pour nous restituer à nous qui ne connaissons pas ces rites et ces rituels. Vous êtes devenue une anthropologue de la mort, en quelque sorte. Comment avez-vous réussi à vous faire oublier ?
En México, jugamos. Y lloramos.
Alors au Mexique, on joue et on pleure avec
Desde
la mort
depuis
les temps préhispaniques.
Se lleva a la gente cantos, poesía.
On amène aux morts des chants, des poésies.
En el Tzahualcóyotl de tiempos prehispánicos,
on a un poète coyote des temps préhispaniques qui a écrit des poèmes magnifiques. Nous devons vivre un peu, puis nous avons un autre chemin. Et avec les Espagnols et donc le métissage, ils nous ont amené, en fait, les Espagnols, un certain nombre de coutumes. Et nous, nous jouons avec la mort, le jour des morts, nous offrons en fait des petits, des têtes de mort avec le nom de la personne.
Et
dans
on mange
ces
les morts.
Où j'ai travaillé.
Oui, mais une calavera de sucre.
Mais voilà, avec, ce, avec ce, cette petite tête de mort en sucre où il se mange, c'est une tradition. Et quand je vais en fait dans les villages, on va vers les morts au cimetière, on leur amène la musique qu'ils aimaient, la nourriture qu'ils aimaient, des fleurs, et on fait des fêtes auprès de la tombe. Donc on a une relation très très particulière avec la mort. On fait aussi ces petites têtes de mort en argile, on les offre, la mort est toujours présente, on vit avec elle.
No pensé en traer a los demás los rituales.
Alors, j'ai pas vraiment souhaité faire ça, c'est-à-dire faire connaître ces rituels.
Todos los rituales de mi
mais pour moi, tous les rituels
a través de, la cámara,
de mon pays,
siempre he dicho que la cámara
je les ai saisis à travers l'appareil photo. J'ai toujours dit que l'appareil photo, en fait, était un prétexte pour connaître la vie.
Mi país, et la cultura de mi
connaître
país.
Aussi mon pays,
la muerte
sa culture. Et la mort a toujours été présente
niño.
Depuis que j'étais enfant, lors du jour des morts. C'était une tradition plus forte encore dans les villages.
He leído mucho
mais j'ai aussi
de
lu beaucoup d'anthropologues, d'historiens qui ont écrit sur la mort, sur cet inframonde, sur Florescano qui est très proche de moi, hein, parce que Alejandro Morena Toscano est aussi quelqu'un que j'ai lu. Escano a beaucoup écrit, en fait, sur cet inframonde pendant les temps préhispaniques. Il est proche de moi puisque c'est le père de ma belle-fille. Et la culture de mon pays m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse d'aller dans ces villages pour voir tous ces rituels sur la mort.
Me gusta. Aunque en mi clase social,
même si dans ma classe sociale, dans la classe sociale d'où
pero
je viens, ces rituels
pueblo,
existent, ou ce rapport
fuerte,
à la mort existe
más,
de manière différente.
Mais
chez les gens des villages, c'est quelque chose de plus authentique. Hein. Dans la classe d'où je viens, effectivement, le jour des morts, on allait au cimetière, mais sans musique, sans nourriture, on offrait bien sûr ces petites têtes de mort en sucre, mais tous ces rituels qui se font près des tombes, c'est vraiment quelque chose qui est très villageois et ça me plaît énormément.
Le jour de l'inauguration de votre exposition, il s'est passé quelque chose, Graciela Iturbide, dans votre propre pays. Je ne sais pas si vous l'avez su. Ça se passe dans la ville de Cuauhtémoc. Vous connaissez cette ville?
Probablemente sí que pasó.
Une pluie d'oiseaux morts s'est abattue sur cette ville. Des images ont circulé sur Internet qui sont très impressionnantes et qui rejoignent les thématiques obsessionnelles de votre œuvre, Graciela. Dans la plupart de vos photographies, en tout cas dans une période de votre travail photographique, il y a beaucoup d'oiseaux. Et il se trouve que le jour de l'inauguration, cette pluie d'oiseaux est tombée sur cette ville mexicaine. Qu'est-ce qu'un oiseau pour vous ? Graciela.
Para mí la libertad, para mí el misticismo. Yo leo mucho a Juan de la Cruz.
Pour moi, c'est la liberté et le mysticisme. J'ai beaucoup lu Juan de la Cruz, les soufis, qui sont des vrais mystiques, et qui parlent beaucoup
des
oiseaux, de la qualité de l'oiseau solitaire. C'est un petit poème de Juan de la Cruz où il parle
de la spiritualité,
de la spiritualité du mysticisme, de cet oiseau qui a une couleur indéfinie.
Canta suavemente,
qui chante très doucement.
Soufi.
Et Attar, le soufi, parle du langage des oiseaux de tous ces oiseaux qui veulent aller voir Sigmund et il les convainc d'y aller et ils se voient eux-mêmes en fait. Ils s'aperçoivent que Sigmund, c'est eux.
Juan de la Cruz y los sufis y otros poemas, otros
et aussi d'autres poètes m'ont donné
non solamente de la libertad,
le sens
mystique,
pas seulement de la liberté mais aussi du mystique.
Hein.
Mais c'est incroyable cette pluie d'oiseaux morts dans cette ville du Mexique. Ça me paraît incroyable. Et je vais me renseigner dès que je reviens au Mexique sur ce fait-là. C'est très, très étrange.
Ah,
j'aurais beaucoup aimé être là pour pouvoir les saisir, les attraper.
Jean de la Croix savait parler aux oiseaux. Et vous, Graciela, vous savez le faire ?
Hay un pájaro.
Il y a un oiseau qui est venu chez moi pendant une année et avec son bec, il tapait sur la vitre.
Il
y a eu un moment donné où il rentrait dans la maison, en fait, jusque là où j'étais assise, puis ensuite il repartait. Je ne comprenais pas pourquoi ce petit oiseau venait.
Une
fois, on m'a filmé pour un programme de télévision au Mexique, et j'ai dit donc à la réalisatrice, regarde ce qui est en train de se passer, cette oiseau qui tape avec son bec sur la vitre et elle l'avait filmé en effet. Hein? Et je dirais que d'une certaine manière ce sont les oiseaux qui me parlent et j'aimerais beaucoup moi aussi pouvoir leur parler.
Votre œuvre a été initiée par un grand photographe mexicain qui s'appelait Manuel Alvarez Bravo, mais vous vous revendiquez aussi d'un héritage européen et notamment de Brassailles. Je vous propose de l'écouter, il va répondre à la question. C'est quoi la photographie? Est-ce que c'est utile, la photographie? Nous allons écouter la voix de Brassailles. C'est une archive INA du 28 septembre 1971. C'était au micro de Michel Arnaud.
La photo envahit la vie moderne, vous savez. Les questions sont toutes différentes. Est-ce que la nature existera encore à côté de la photo où on verra tout? Par la photo, par le cinéma, par le film, par la télévision, on n'en sait rien. Les gens commencent déshabitués de regarder les choses parce que ils comptent sur la télévision pour les bien voir, n'est-ce pas? Pour une photo, pour les choses. Les événements se passent en vue des photos. S'il y a un événement qui passe, s'il n'y avait pas de photo, l'événement n'a pas eu lieu, presque, n'est-ce pas?
Vous écrirez un livre sur la photographie?
Sans doute, oui. Ça m'intéresse beaucoup. Je crois que j'écris des choses intéressantes dans ce sujet. Pas tellement la photographie comme chose, mais la photographie comme médiateur dans les arts. Vous savez, c'était quelque chose comme le pierre philosophal qu'on cherche depuis toujours. Quelque chose qui est vraiment la ressemblance des choses. Et puis quand même, c'est pas ça, vous voyez. Depuis la Renaissance et depuis l'Antiquité, on cherche toujours quelque chose qui est quand même en dehors de l'humain et quand même cette objectivité. Et vous voyez, c'est tout de même la photographie, c'est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Tantôt c'est absolument zéro et tantôt c'est l'infini. Il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est que la photographie, n'est-ce pas, comme expression, est un monde assez limité pour une personne qui a une certaine personnalité qui veut s'exprimer, parce que il rencontre très rapidement ses limites.
Nous venons d'entendre la voix de Brassailles. Je sais que vous êtes une amoureuse de Brassailles,
oui,
Graciela.
J'aime Brassailles. Adoro Brassailles.
J'adore Brassailles.
Et también adoro las conversaciones que tuvo con et, Henry Miller.
J'adore aussi évidemment les conversations qu'il a eues avec Henry Miller. Hein,
que para el fotógrafo es muy importante.
Quand ils disent que pour le photographe, l'imagination, sueños, les rêves et l'intuition sont très importants pour les photographes et surtout l'imagination.
Es uno de los grandes fotógrafos que pienso que me han influenciado.
C'est un des grands photographes, je pense, qui m'a influencé, mais pas seulement avec sa photographie, hein, mais à travers la correspondance qu'il a eue aussi avec Henry Miller.
Il vient de dire que la photographie, c'est comme une sorte de pierre philosophale. Et quand on voit votre œuvre photographique, Graciela Iturbide, à la Fondation Cartier à Paris, on se dit qu'il y a un domaine anthropologique, vous avez réussi à nous restituer des rites de civilisation indienne dans votre propre pays. Il y a tout un cycle aussi d'œuvres philosophiques, je dirais. C'est-à-dire que, comme vient de le dire Brassailles, vous nous donnez la sensation d'infini. Et quelquefois, à partir de pas grand-chose, un poteau télégraphique et un oiseau. Des fondations d'immeubles à l'intérieur du désert, ou le ciel, ou le visage d'un enfant. Est-ce que la photographie a à voir avec l'infini pour vous ?
Sí, la fotografía para mí tiene que ver con todo.
Oui, pour moi la photographie, cuando
yo veo
tout,
a través de mi cámara,
je vois à travers mon appareil,
con algo,
quand je me surprends,
yo,
quand quelque chose me surprend,
aprieto el botón de mi cámara.
J'appuie sur le déclencheur et je pense que la photographie, elle fait partie de ma vie. C'est une extension de Graciela Iturbide, de ce que j'ai lu, de ce dont j'ai parlé, de ce que j'ai vu dans les musées. La musique également, et tout ça, ça forme des influences. Et évidemment, la photographie, elle a à voir avec l'infini. Quand on reprend... Effectivement, le côté mystique. Pour moi, la photographie, c'est la réalité, mais c'est aussi une réalité très subjective. Mais elle peut aussi être infinie, d'une certaine manière.
C'est une question de forme ou une question de contenu ? D'abord la forme, ensuite le contenu ?
Primero la sorpresa.
D'abord, c'est la surprise.
Et después... Con la sorpresa vienen juntos la forma y el contenido.
Et avec la surprise viennent la forme et le contenu.
Porque cuando yo me sorprendo, tomo la fotografía.
Parce que quand quelque chose me surprend, je
con algo
prends
que me gustó en la vida.
La photographie. Donc
para
c'est quelque
mí,
chose qui m'a plu.
Yo tuve la suerte de conocer a Cartier-Bresson.
J'ai eu la chance de connaître Henri Cartier-Bresson.
Él dijo que hay un momento decisivo en la vida.
Il parlait d'un moment décisif, en fait.
Para mí hay dos.
Et pour moi, il y en a deux.
Uno, cuando me sorprendo,
le premier, quand je suis surprise par quelque chose et que je photographie.
El segundo, cuando estoy en
et
mi
le
studio,
deuxième moment, c'est lorsque je suis dans
révélé,
mon atelier.
Yo soy fotógrafa
analógica. Travaille toujours en argentique, en analogique. Je développe les films, je fais toujours des tirages.
Hay un segundo instante.
Et pour moi, ce deuxième instant décisif, c'est le moment où on découvre en fait sur la planche contact ce qu'on croyait bon ou ce dont on ne se souvenait pas et qu'on va redécouvrir sur la planche contact et qui est intéressant. Donc, au début, il y a la surprise et il y a le souvenir et puis après, il y a de nouveau la surprise et le souvenir.
Vous venez d'évoquer, Graciela, le nom de Henri Cartier-Bresson qui parlait effectivement de cet instant décisif. Mais nous allons l'écouter parce qu'il va nous dire aussi qu'il n'y a pas de recette pour la photographie. Et il va parler d'une donnée essentielle dans votre pratique photographique, c'est le temps. Nous écoutons la voix de Cartier-Bresson, c'était le 9 avril 64, au micro de Jean Bardin.
À la prise de vue, on ne retouche pas, n'est-ce pas ? La chose est prise, elle y est ou il n'y est pas. C'est pour ça que je ne peux jamais recadrer un négatif. Si la photo est bonne, elle y est. On dit les angles de prise de vue, mais les angles, c'est une question de millimètres, c'est rien. La différence entre une bonne chose et une mauvaise chose, c'est infinitésimale. Et c'est tout. Si vous c'est un métier qui n'existe pas, il n'y a pas de métier, n'est-ce pas? Et en même temps, c'est très facile. N'importe qui peut acheter un appareil s'il a les moyens, n'est-ce pas? Et ensuite, c'est très difficile.
Si vous aviez un conseil à donner à un photographe amateur, vous lui diriez acheter un appareil, l'opuscule, et puis ressentez un choc, une émotion, et là, peut-être...
Exactement, promenez-vous, et puis regardez ce qui vous intéresse.
Et voyez ce qui...
C'est le voir, mais... Si peu de gens sont visuels, c'est extraordinaire.
Vous disiez, on change d'objectif. Donc, malgré tout, tout à l'heure, vous n'avez pas de technique. Mais il y a une technique, quand même, incontestablement.
Ouais, c'est exactement comme sur une machine à écrire. Il y a la clé du Z, il y a la clé du A, de telle lettre, n'est-ce pas? Alors, on sait où c'est, n'est-ce pas? Sur le clavier. Mais là, je sais exactement. Quand je vois une chose, je me dis, ça se découpe comme ça. Voilà la rigueur de la composition. Voilà la géométrie, ça s'organise comme ça. Et vite, je change, n'est-ce pas?
Voilà.
Oh, mais c'est instinctif, enfin, c'est exactement comme une cuisinière, elle sait s'il faut un peu plus de sel, elle n'a pas prendre une balance pour mesurer son sel. Je sais quelle est la lumière, j'évalue la lumière, pour la lumière c'est pas difficile, enfin, je suis habitué à un film, n'est-ce pas? Et je travaille en général au 125e. Vous voulez des recettes?
Oui, des recettes. Je vais noter d'ailleurs.
Mais il n'y en a pas de recettes, c'est une question de temps toujours, n'est-ce pas? Et d'économie. D'économie, c'est-à-dire d'avoir le moindre matériel possible, le moindre chose possible pour obtenir le plus grand résultat, pour dire la chose le plus fortement possible, le plus rapidement, de la façon la plus concise.
Souscrivez-vous aux propos de Henri Cartier-Bresson? C'est instinctif, mais en même temps, il faut une technique.
Oui. Pour moi, la photographie est totalement instinctive.
Pour moi, la photographie est totalement instinctive.
Et je comprends tout à fait ce que dit
Cartier-Bresson.
Tengo que reconocer que conozco poco de técnica.
Avouer que je connais peu la technique, c'est pour ça que je ne donne pas de cours d'ailleurs.
Yo quisiera hacer fotografía con las manos.
Moi, je voulais être photographe avec mes mains, en fait.
Afecto por tener muchas cámaras,
no
me interesa.
J'ai pas un intérêt particulier pour avoir beaucoup d'appareils. J'utilise pas de téléobjectifs. J'ai eu un petit téléobjectif que Cartier-Bresson m'avait donné d'ailleurs, hein, pour prendre des paysages.
C'est incroyable parce que quand Henri déjà ne tomava photos seulement.
C'est incroyable, c'était Cartier-Bresson ne prenait plus de photos.
Elle m'invita à tomber des photos.
Dessinait, il peignait et il m'a invité à venir prendre des photos pour une manifestation. Et je l'ai vu là à l'œuvre prendre des photos avec son Leica et ça a été un honneur de le voir comme ça travailler en direct. Hein, et c'était vraiment merveilleux.
Pero quizá la filosofía de Brassai
peut-être que la philosophie de Brassai me correspond
pienso,
davantage.
Pero adoro lo que dice
mais j'adore ce que dit Cartier-Bresson et j'adore ses photographies et donc tout ce qu'il a fait.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Graciela Iturbide, Edith Piaf, non, rien de rien. Je ne regrette pas.
Ah, j'adore. Edith.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Rien. bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.
Mais c'est nous qui vous remercions de réécouter Edith Piaf. Pourquoi vous l'aimez tant? On l'aime beaucoup en France, mais vous,
oui.
Vous avez des chanteuses qui nous font pleurer. On l'a bien vu en début d'émission.
Porque yo lloraba mucho cuando la escuchaba.
Parce que je pleurais beaucoup quand je l'écoutais.
Et yo he estado en Père Lachaise.
Je suis allée au Père Lachaise pour aller sur sa tombe.
Et quand je vivais un tiempecito pequeño en Francia. Siempre la escuchaba y siempre lloraba.
Je vivais un petit peu à Paris.
Ahora no puedo llorar.
Je l'écoutais toujours et à chaque fois que je l'écoutais, je pleurais. Maintenant, je ne peux plus pleurer.
Pero yo la amo.
Mais je l'aime.
C'est votre père, Graciela, qui vous a donné le premier un appareil photographique quand vous étiez petite. Mais la pratique photographique est venue assez tardivement. Pourquoi ?
Mi padre me regaló una pequeña cámara Brownie.
M'a offert un petit appareil Brownie, j'avais 11 ans.
Pero yo tomaba algunas fotografías porque mi padre era aficionado.
Je prenais des photographies parce que mon père aimait la photographie. On était 13 enfants et mon père prenait beaucoup de photos de famille.
Yo soy la mayor.
C'est moi l'aînée.
Yo quería ser escritora.
Et je voulais être écrivaine.
Pero mi familia era muy conservadora.
Mais ma famille était très conservatrice, donc je n'ai pas eu le droit d'aller à l'université.
Era para mí como
cet appareil photo,
diversión.
No,
yo no pensaba ser fotógrafa.
C'était une petite distraction, en fait. Je ne voulais pas être photographe, je voulais vraiment être écrivaine.
Con el tiempo,
et avec le temps,
la vida te da cosas.
La vie nous donne des choses. J'ai étudié le cinéma, j'ai rencontré Manuel Alvarez Bravo. Et maintenant, je suis photographe.
Mais je vous propose d'écouter la voix de celui qui fut votre maître dans tous les sens du terme, puisqu'il vous a expliqué comment photographier, mais il vous a expliqué la sèse de la photographie. Nous allons donc écouter la voix de Manuel Alvarez Bravo. À propos de la primauté de la forme sur le contenu dans les images, c'est une archivina du 2 mars 1980.
Que se trabaja si no es para comunicar? Toda imagen, ya sea fotográfica, ya sea pintura, etc., contiene dos aspectos. Uno, que es la forma, y otro, que es el contenido. Entonces, yo creo que lo que perdura para siempre es la forma y que el contenido
puede si ce n'est pour communiquer. Toute image, qu'il s'agisse de photographie ou de peinture, contient deux aspects, la forme et le contenu. Je crois que ce qui dure pour toujours, c'est la forme. Le contenu a une importance momentanée. Dans l'histoire de l'art, par exemple, dans l'histoire des religions, quand on produit une image religieuse à un moment où l'émotion religieuse est vécue par le public, le contenu de l'image a une valeur. À présent, beaucoup de contenus religieux se sont perdus, à tel point qu'on pourrait considérer le musée comme un conservateur des formes et un cimetière des contenus.
Del Renacimiento, por ejemplo, ahora hay muchos aspectos religiosos, insistiendo en la cuestión religiosa, muchos aspectos que ya no tienen una relación directa con las personas que los miran. A tal grado de que un museo pudiera considerarse como la conservación de formas estéticas y cementerio de contenidos.
Nous venons d'entendre la voix de Manuel Alvarez Bravo et je crois que Graciela Iturbide vous inscrivez complètement dans sa démarche et toute votre œuvre photographique a à voir avec le sentiment religieux, y compris et peut-être même surtout quand vous photographiez des paysages. Mais avant d'avoir cette intensité de regard sur ce que veut dire photographier un paysage, vous êtes installé dans tous les sens du terme, psychiquement mais aussi géographiquement, dans des civilisations indiennes, et notamment les Indiens séries du désert de Sonora. Et là, vous avez regardé la population, vous êtes introduit dans cette population, vous avez, comme vous savez le faire, vous êtes fait oublier. Mais la photographie, c'est aussi une capture de l'âme des gens. Comment avez-vous fait pour faire céder les personnes que vous avez photographiées pour qu'ils n'aient pas peur que vous preniez leur vie?
Si, généralement en Mexico, quand tu tomas une photographie.
Généralement au Mexique, quand on prend une photographie, on vole l'âme.
Et además, se hacen cosas a veces fuertes con la fotografía.
Quelquefois, on fait des choses aussi un peu dures avec la photographie. Par exemple, une amie Rukitana, dont j'avais pris la photographie, m'avait dit, s'il te plaît, fais une photo de mon petit ami, parce qu'en fait, il me trompe. Je lui dis, mais pourquoi tu veux que je fasse une photo? Elle m'a dit, parce que je vais mettre en fait des épingles sur la photo, des aiguilles.
Hein.
Et moi, je me suis dit, non, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire cette photo. Et j'ai eu la chance, aussi bien à Juchitán qu'avec les séries, j'ai vécu avec les gens. Je mangeais avec eux, les femmes de Juchitán, elles allaient au marché vendre leurs tomates. Hein. Cartier-Bresson était allé à Juchitán dans les années 30. Hein. Et il m'avait donné des photographies, d'ailleurs, quand on s'était vu à Paris, pour la Maison de la Culture de Juchitán. Donc, j'étais dans une complicité avec ces peuples originaires. Et j'avais beaucoup de respect pour eux, je ne prenais pas de photographie qui n'avait pas envie. Hein. Donc il y a une amitié, il y a une complicité, et là, quand ça c'est là, il n'y a plus en fait cette idée de vol de l'âme. Hein. Et maintenant, voilà, cette idée de vol de l'âme n'existe plus vraiment en fait, hein, avec les téléphones portables avec lesquels on prend des photos. Et je pense que maintenant, c'est le téléphone portable qui, d'une certaine manière, est la mémoire photographique de tout le monde. Mais si on parle d'Alvarez Bravo, et en le réécoutant, on l'a parlé, ce qui est merveilleux, il m'a appris surtout qu'il y avait du temps, qu'il y avait du temps pour tout, qu'il ne s'agissait pas de se presser, qu'il fallait faire les choses avec calme. Et ça, cette phrase, prends ton temps, tu as du temps, ça a été vraiment une phrase capitale pour moi, à tous les niveaux.
Comment les rêves s'introduisent-ils dans votre pratique photographique?
Ah, muy fuerte. De manera cotidiana.
Alors, c'est une présence très forte quotidienne.
Yo he tenido sueños premonitorios.
J'ai eu des rêves
soñé al señor de los pájaros,
prémonitoires. Hein, par exemple, cet homme avec les oiseaux, en fait, je l'ai rêvé avant de le prendre en photo, avant de le voir vraiment. Je rêvais à cet homme qui avait dit, sur ma terre, je vais semer des oiseaux.
También soñé.
J'ai également rêvé que ma maison prenait feu. Face à cet incendie, je disais, mon Dieu, mes négatifs. Je voyais qu'en fait, des négatifs sortaient toutes les personnes que j'avais prises en photo et elles se sauvaient. Et donc, à ce moment-là, puisque les personnes avaient la vie sauve, les négatifs n'avaient plus d'importance. Hein. Et ça, c'était merveilleux, en fait.
Je vous propose d'écouter la voix d'un amoureux de votre propre pays, Graciela. Le Mexique, c'est Jean-Marie Le Clésio qui va parler des peuples.
Oui.
Vous connaissez, oui, les livres de Le Clésio qui parlent de votre propre pays. Nous allons l'écouter. C'est une archivina du 15 octobre 2008 et c'était au micro de Jean-Louis Hézine, Jean-Marie Le Clésio.
Il est plus facile de rencontrer des gens au Mexique. C'est une société où il n'y a pas, finalement, il n'y a pas les barrières qu'on rencontre en Europe. Les gens sont beaucoup plus accessibles.
Oui.
y compris à travers le silence. Oui, oui, justement, parce que le silence n'est pas perçu comme une absence de parole, mais comme une autre manière de s'exprimer. C'est le silence pratiqué par les Amérindiens, je crois qu'on pourrait le comparer à la non-violence pratiquée par les Indiens à l'époque de Gandhi.
Ah oui.
Quand les Mexicains se taisent, c'est qu'ils ont quelque chose d'important à dire. Et il faut le comprendre. Et je veux dire, même au niveau politique, bien souvent, c'est le silence qui est le plus fort, qui parle le plus fortement. Peut-être pas dans des exemples de politique au niveau national, mais dans des exemples de politique locale. Je veux dire, des exemples qui peut-être vous paraîtront dérisoires, mais qui sont quand même significatifs. Supposons qu'un curé veuille, par exemple, changer la cloche de son église. Et le village n'est pas d'accord. Il trouve que l'ancienne est très bien. Et il n'y a pas d'autre moyen de lui faire comprendre qu'en cessant d'aller à l'église et en cessant d'être présent. Et par cette force, arriver à lui faire remettre l'ancienne cloche en place. Oui. Ça s'est produit. Et je crois que c'est une attitude qui est assez liée à la culture amérindienne. On fait comprendre des choses sans les dire et on doit les comprendre comme on dit à demi-mot ou quelquefois sans un mot du tout.
Nous venons d'entendre la voix de Jean-Marie Le Clézio à propos de la force du silence. Oui. Alors évidemment, on se dit, Graciela, que vous n'avez pas besoin de parler pour photographier. Mais cependant, quand on voit votre œuvre photographique, on se dit qu'il y a un pacte entre les personnes que vous avez photographiées et vous. Vous n'avez jamais volé de photos à qui que ce soit. Ressentez-vous la même chose à propos du silence de celles et de ceux que vous avez photographiés?
Y en México pasa mucho esto.
Oui, tout à fait. Et au Mexique, c'est quelque chose qui se passe fréquemment. J'admire beaucoup Le Clézio et dans un de ses livres, quand il parle de Frida Kahlo et de Diego Rivera, il met une petite note sur le fait que j'ai photographié la salle de bain de Frida Kahlo et ça m'a rendu très fière.
C'est vrai que vous avez eu de la chance de rentrer dans la maison de Frida Kahlo et de la photographier.
Ah oui, oui, oui.
Et vos photos font le tour du monde parce que, en tout cas en France, il y a une adoration de Frida Kahlo. Frida Kahlo.
Yo no soy fridomana.
Alors, moi, je ne suis pas fridomana, en fait.
Admiro
adepte
a Frida Kahlo.
De Frida Kahlo.
Porque estaba enferma,
je l'admire
pintaba,
parce que, effectivement, elle était infirme, c'était une femme
Santa
merveilleuse.
Frida.
Mais aujourd'hui, au Mexique, c'est Sainte Frida. Les Mexicains, ils aiment les gens qui souffrent, les gens qui ont perdu une jambe, et les chicanos, donc ces Mexicains. De l'Amérique du Nord, il idolâtre plus encore. Quand j'ai fait ce reportage sur les immigrants, une femme chicana, c'est les immigrés mexicains vivant aux États-Unis qui sont politisés. Ceux qui sont avec Dolores Huerta, César Chávez,
les mexicains norteamericanos, les marginados.
Il y a des gens politisés, d'autres qui sont plus marginalisés. Donc cette femme chicana m'a donné un petit papier où il y avait la Vierge de Guadalupe et Frida Kahlo incrustées, toutes les deux, et une prière pour que l'immigré arrive à passer la frontière. Il y a vraiment cette admiration pour Sainte Frida. Moi, je l'admire, mais je l'admire comme une femme formidable, comme une peintre qui, en dépit de toutes ses douleurs physiques, a pu utiliser sa peinture comme une thérapie. Mais pour moi, ce n'est pas Sainte Frida.
Et le silence?
Muy importante para mí.
Le silence est très important pour moi.
En mi casa,
dans ma maison,
necesito silencio.
J'ai besoin de silence.
Cuando voy a fotografiar, voy sola.
Quand je vais faire
silencio,
des photos, j'y vais seule,
es para mí,
en silence.
una parte
et
de mi vida. Lo
pour
necesito.
Moi, le silence, c'est une partie de ma vie, j'en ai besoin.
Y una manera, como
je l'aime profondément.
Hablando de la eclesión que revenir vivió en Michoacán,
qui,
yo iba a fotografiarlo, pero no se pudo.
J'étais allée pour le photographier, mais ça n'a pas pu se faire en raison de diverses circonstances, pas parce qu'il n'était pas d'accord. Mais il y a un autre anthropologue qui s'appelle Serge Grusinski, que je vais voir ce soir,
adoro.
Et que j'adore.
Hein. Sus libros.
J'adore ses livres.
Non, c'est incroyable. Porque te habla de la conquista, de cómo los indígenas enterraban antes sus ídolos en la milpa, en el maíz, para que creciera mejor.
Leurs idoles tête en bas dans le maïs pour que ça pousse mieux. Et quand les Espagnols ont fait retirer les idoles au peuple amérindien et leur donnent des saints à la place, donc ils s'en emparent et ils les plantent exactement dans le maïs, la tête en bas, comme ils plantaient leurs idoles, hein, pour que le maïs pousse.
Si. Et pienso que... la religión católica tenía que ver un poquito con la religión prehispánica.
Avait aussi à voir avec la religion préhispanique.
Escultura de Huitzilopochtli.
Quand ils ont fait une sculpture, en fait, ils faisaient des sculptures en fait d'amarante et de miel dans le templo mayor, le temple principal, et les gens allaient et ils prenaient des morceaux de cette sculpture qu'ils mangeaient, hein, et donc ça se rappelle bien sûr le culte catholique avec manger le corps et le sang du Christ.
Con l'Ecclesio, con Grusinski,
et avec l'Ecclesio, Grusinski.
Con algunas, me han ayudado mucho, aunque leo muchos antropólogos mexicanos.
Ils m'ont beaucoup aidé, en fait, même si je lis beaucoup d'anthropologues mexicains également, mais je les adore.
Dans votre dernier cycle de photographie, Graciela Iturbide, les hommes, les femmes, les enfants ont disparu pour... céder la place au paysage, comme si l'inhabité devenait maintenant la chose la plus importante à photographier. Pourquoi?
Effectivement, parce que je sens que le paysage forme partie du ser humain.
Parce que pour moi, le paysage fait partie de l'être humain que j'ai photographié. C'est la même chose pour les objets.
No te puedes quedar en lo mismo.
Je crois
si tu haces una novela, no puedes hacer otra igual.
Faire toujours la même chose, hein, quand on fait un roman, on ne fait pas toujours le même roman. Ça veut dire qu'il faut qu'on avance dans la vie avec ce que la vie nous donne, le ciel, les hommes, les oiseaux. Je viens de rentrer de Lanzarote, aux Canaries. Il y a à peu près un mois, et là, j'ai compris l'évolution de l'homme. Et maintenant, je lis Darwin. Et maintenant, je sens que je fais vraiment partie de l'évolution de l'homme. Parce que j'ai vu ces volcans, comment ils avaient surgi de la mer, comment il y avait des éruptions, comment la lave... voilà, je suis un peu à la fin de ma vie, et malgré ça, j'ai compris... En fait, des choses que je n'avais pas comprises, c'est-à-dire l'évolution de l'homme et comment on vient donc de toute cette chaîne.
Hein,
et pour moi, c'est très important. Donc, je lis Darwin, je lis Humboldt et j'espère pouvoir faire quelque chose avec ce sentiment.
Hein,
et j'ai commencé avec l'être humain et finalement, je termine avec ce qui est le celle de l'être humain, en fait, le début de l'être humain.
Si es que no tengo otra sorpresa.
Hein? À moins que j'ai d'autres surprises, en fait, qui surgissent. Hein?
Merci, merci infiniment, Graciela Iturbide. Votre exposition magnifique vient de commencer à la Fondation Cartier. Elle se terminera le 29 mai. Elle s'intitule Héliotropo 37. C'est l'adresse de votre atelier au Mexique. Merci infiniment à Pascal Fougère qui a brillamment assuré cette interprétation simultanée.
Si tu fais ce voyage vers le
C'est avec Émilie Loiseau, celle qui vit vers le sud, que nous allons nous quitter ce soir. Merci encore Graciela, merci Pascal, merci à Juliette Delperou qui est à la technique ce soir, merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux, merci à Élodie Royer, Céline Villegas et Marie Clément, et bien sûr à Lilian Alaume qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission.